Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Bonjour Arnaud Benedetti.
Bonjour.
Professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique. Allez, je déroule. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et votre dernier livre, Le progrès est-il dangereux chez Humain Science. Mathieu Cheng, directeur associé chez BVA Nudge Unit. C'est nouveau ça?
C'est quoi Nudge Unit? Au fait, c'est un département qui travaille sur toutes les théories comportementales qu'on applique, notamment pour aider les dirigeants à mieux communiquer et les entreprises à mieux communiquer, mais aussi les services publics.
Et vous connaissez bien l'état de l'opinion français. Vous êtes cofondateur de Daily d'opinion et vous avez publié La France en face, ce que disent les Français à leurs élites déconnectées, qui est paru aux éditions du Rocher. On va en parler avec ces 65 millions de procureur. Laurence Taillade, bonjour, présidente du Parti Républicain Solidariste. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié Être une femme en 2020 aux éditions Michelon. J'espère qu'il y aura une édition 2021. Vous m'entendez ?
Oui, je vous entends. En tout cas, être une femme en 2020, je pense que c'est être une femme dans les années 2020, évidemment. Mais
voilà.
C'est vrai que la sortie s'est faite juste avant le confinement, malheureusement. Mais pour autant, ça reste totalement d'actualité.
Complètement. Et Frédéric Dabi, bonjour Frédéric. Directeur général adjoint de l'IFOP. Merci d'être avec nous. Peut-être qu'on pourra refaire un petit point sondage, puisque hier, on a eu des remarques d'auditeurs qui ne comprennent pas comment Emmanuel Macron peut être aussi haut dans les sondages et que les sondages sont une fois de plus bidonné.
Bien sûr.
On en reparle dans un instant. On va parler évidemment de ces 66 millions de procureurs. Emmanuel Macron n'aime pas la critique, visiblement. Est-ce que c'était habile ? On a deux spécialistes de communication politique pour analyser cette petite phrase. Les tests PCR obligatoires pour les voyageurs européens. On se demande pourquoi on ne l'a pas fait avant, puisque l'Espagne, l'Italie, un certain nombre de pays réclamaient ces tests PCR, faut-il reconfiner uniquement les personnes fragiles ? Alors j'avoue que moi j'ai vu un épidémiologiste hier dire que c'était une erreur. Je vous expliquerai, j'essaierai de vous restituer ce qu'il a dit. Et puis j'en vois un autre ce matin qui dit si ce serait une bonne chose. Donc on est reparti dans les débats. Coup de cœur, coup de gueule, pour parler un petit peu d'autre chose. Arnaud, c'est un coup de cœur pour un livre.
Ah oui, alors c'est un livre qui a été publié il y a déjà un an, alors que j'ai lu pendant les fêtes. Les fêtes, ça permet parfois de rattraper les lectures en retard. D'un jeune auteur qui a 25 ans, qui est normal. Malien, qui écrit de manière très brillante, c'est un livre intitulé, qui est publié aux éditions du Cerf, qui s'appelle « Quand Rome inventait le populisme ». C'est 140 pages qui se lisent très vite et où finalement, alors l'auteur c'est Raphaël Dohan, excusez-moi, je ne l'ai pas cité, et il vient d'ailleurs de publier un nouveau livre, celui-là je ne l'ai pas encore lu, aux éditions passées composées sur le concept d'assimilation, et en fait bon, il retrace l'histoire du populisme au temps de Rome, et il montre que finalement les débats que nous avons aujourd'hui sur populisme, élite, existait déjà à Rome, entre notamment les tribuns qui représentaient le peuple romain et le Sénat romain qui était l'expression des grandes familles patriciennes. Et que ce débat a traversé toute l'histoire de Rome. Alors il évoque notamment la fameuse figure, évidemment, de Jules César, mais également des frères Gracchus qui constituent en fait la première expression d'un mouvement un peu social dont la Rome antiques, qui ont d'ailleurs inventé la communication politique. Et on apprend à l'occasion de cet ouvrage que ce sont les premiers à s'être adressés face au peuple, alors que, en règle générale, les tribuns romains étaient dos au peuple. Donc là, en l'occurrence, on voit qu'il y a finalement déjà une tension qui existe et que finalement les débats qui sont les nôtres aujourd'hui
existaient déjà.
Des débats qui sont très vieux, très anciens. Et c'est toujours
et
très intéressant.
Et qui portaient sur le même type de...
Portaient sur les mêmes titres. On retrouve des questions de revendication sociale, on retrouve des questions y compris d'immigration. Est-ce qu'il faut intégrer les Italiens dans la Rome impériale, en l'occurrence ? Donc des questions qui finalement sont très anciennes et qui aujourd'hui continuent largement d'agiter nos débats. Donc c'est toujours très intéressant de se replonger dans l'histoire pour finalement se rendre compte que les formes de controverse qui sont les nôtres ne sont pas forcément nouvelles. Et encore une fois, c'est écrit superbement, je tiens
à le souligner. Donc l'auteur s'appelle
Raphaël Dohan, D-O-A-N, c'est aux éditions du Cerf, ça a été publié fin 2019.
On le trouve
sans aucune difficulté dans toutes les bonnes
librairies. Et ça s'appelle « Quand Rome inventait le populisme ».
Quand Rome inventait le populisme.
Voilà. Alors, Laurence Taillade. C'est un coup de gueule.
Moi, je voulais vous parler de la charte de la laïcité, donc qui a été imaginée par notre cher président Macron pour imposer les principes républicains au CFCM. Or, il s'avère que cette charte, donc à la base, c'est une idée, quand même, je voudrais rappeler, d'Alain Juppé, puisque c'était une de ses propositions lors des primaires, qui lui avait été soufflée par Tarek Koubrou, qui est un ancien frère musulman, il faut quand même le rappeler. Et qui finalement n'impose pas grand-chose à pas grand monde, puisque je rappelle quand même qu'une charte n'a pas valeur de loi et que donc il n'y a que celui qui la signe qui doit s'imposer les principes qu'il s'impose. Donc pourquoi je voulais vous parler de cette charte? Tout simplement parce que il y a guerre au sein du CFCM, qu'un certain nombre d'instances qui sont proches, notamment d'Erdogan, mais aussi d'autres qui sont proches du Taglit, n'ont pas voulu signer cette charte. Mais aujourd'hui, on se retrouve du coup face à une situation assez inquiétante. C'est-à-dire que ces gens qui n'ont pas voulu signer la charte, manifestement, ne sont pas inquiétés. Ça veut dire qu'en réalité, ils se mettent en marge de nos principes et de nos lois républicaines, mais que finalement, ils ne sentent pas qu'il y ait de sanctions. Par ailleurs, je pense que voilà, le seul intérêt de cette charte, c'est effectivement d'avoir permis de mettre en avant qu'il y a des islamistes au sein du CFCM. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces gens? Et puis, on leur donne aussi une tribune, parce qu'aujourd'hui, dans la presse, ces gens se répandent en disant qu'une fois de plus, islamophobie et compagnie. Donc, moi, je voudrais quand même qu'on revienne aux fondamentaux, qu'on arrête de laisser penser aux gens que cette charte va changer quelque chose. Elle ne changera rien, si ce n'est effectivement d'avoir mis en avant qu'il y avait des islamistes dans d'autres pays et que ces islamistes ne voulaient pas respecter nos principes républicains. Maintenant, il serait temps effectivement d'imposer ces principes, d'imposer nos lois. Et si ces personnes se mettent en marge de nos principes républicains, eh bien, ils n'ont plus à exercer sur notre territoire.
Oui, donc vous avez peut-être une remarque, les uns et les autres, effectivement, on a l'impression que ça tourne un petit peu en rond et que les sujets, visiblement, vont avoir du mal à faire passer cette charte.
Oui, il y a un souci, parce qu'en fait, ça avait été annoncé sur le plan de la communication politique comme un grand succès pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et quelques jours plus tard, on apprend qu'en effet, un certain nombre d'organisations, membres du CFCM, ont refusé de signer cette charte. Alors, ce qui montre d'abord, au premier point, les tensions qui existent au sein du CFCM, qu'il y a une hétérogénéité de position, et ça invalide en fait le fait aujourd'hui, d'une certaine manière, de ce qui était présenté comme une victoire politique du gouvernement, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, manifestement, il n'y a pas consensus, c'est le moins qu'on puisse dire sur cette charte.
Ça va être un peu un échec.
Ce qui pose problème. Oui. On a peut-être communiqué un peu trop vite.
Oui, et puis d'autant plus, il faut le rajouter, Valérie, qu'il y a des chartes qui sont exemplaires et qu'effectivement, on peut citer, qui est notamment la charte de la région Île-de-France, qui avait été menée par Patrick Karam. Oui. Pourquoi elle a un intérêt, cette charte? Elle a un intérêt tout simplement parce qu'elle conditionne l'attribution de subventions à des associations. Donc, effectivement, il y a une sanction possible. Vous ne la signez pas, vous n'avez plus de subvention. Sauf que la charte de gouvernement aujourd'hui n'est absolument pas sanctionnée dès lors qu'on refuse de la signer. Moi, je trouve que c'est absolument scandaleux de laisser penser qu'on a une avancée historique. C'est faux.
Allez, on marque une pause, on va continuer le tour de table et on va parler évidemment de ces 66 millions de procureurs. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. On continue à faire notre tour de table. Alors, il y en a un d'entre vous qui fait du bruit avec son micro, je ne sais pas qui c'est. C'est Laurence, faites attention. Frédéric Dabi, c'est un coup de gueule. On l'a un petit peu évoqué dans l'émission Média avant, mais je vous laisse le refaire.
Oui, je vais essayer de le refaire, sûrement moins bien que vous, mais c'est un coup de gueule contre Disney qui a décidé de supprimer sur la plateforme de Disney Plus du catalogue des enfants des films comme Aladdin, comme Peter Pan, comme les Aristochats, comme La Belle et le Clochard, que toute génération connaît bien. Et ces films seront désormais accessibles sur le contrôle parental, sur les plateformes adulte, avec un message d'avertissement qui dira que ces programmes incluent des représentations, des stéréotypes, etc. Déjà, au mois d'octobre, Disney avait pris des mesures concernant ses films, ses propres films, qui avaient été jugés offensants, racistes ou stéréotypés. Quelle réaction? Ça va être l'objet de notre débat, mais c'est d'abord navrant face à une véritable autocensure, si je puis dire, de Disney par lui-même. Et puis, plus largement, ça montre une fois de plus, il y a aussi une affaire sur Babar, qui est vu comme un parangon du colonialisme. Ça montre qu'on est entré dans cet âge racialisme, racialiste, pardon, où le racisme et toute forme de stigmatisation est traquée, où cette suspicion de racisme devient un prisme majeur de perception du réel. Alors voilà, les Siamois, les chats Siamois dans La Belle et le Clochard, ouais. Est-ce que c'est pas une offense vis-à-vis des personnes d'origine asiatique, les Indiens dans,
dans Peter Pan,
est-ce que dans Dumbo, est-ce que les corbeaux noirs ne se moquent pas des afro-américains? Tout ça est absolument navrant. Et moi, ce qui me nave, c'est qu'on passe peut-être à côté d'autres formes de discrimination, de racisme, et on a ce déconstructionnisme et cet âge, comme je disais, cet âge identitaire, cet âge racialiste où les personnes sont assignées à résidence et sont perçues non pas pour ce qu'elles font, mais pour ce qu'elles sont.
Oui, mais il y avait eu l'année dernière le retrait aussi d'Autant en emporte le vent de la plateforme HBO, et on en avait parlé. Oui, une réaction, effectivement, hier, Babar, accusé d'être, de représenter le colonialisme, puisque Babar part à la ville et revient après pour, en quelque sorte, coloniser ou influer, évangéliser les éléphants. Donc, jusqu'où on va aller je voulais une réaction de chacun d'entre vous.
C'est l'expression d'une idéologie de la déconstruction qui malheureusement a gagné depuis très longtemps les campus américains et qui est majoritaire d'ailleurs aujourd'hui et qui gagne en partie aussi une partie de l'université française.
Et le journal Le Monde aussi.
Et ce qu'il y a de plus frappant sur ce que vient de dire Frédéric, c'est que finalement les grands opérateurs s'auto-censurent eux-mêmes et donc intériorisent ces codes. Donc il y a une bataille culturelle qui est menée, qui est à mon avis dangereuse, qui constitue une régression en l'occurrence, et qui ne touche pas seulement d'ailleurs les produits de divertissement, si je puis dire, c'est aussi parfois des grandes œuvres littéraires qui sont clouées au pilori parce que elles véhiculeraient là aussi des représentations ou des stéréotypes qui seraient aux yeux de ces nouveaux censeurs totalement inacceptables.
Ouais. Voilà. Et c'est vrai que Joe Biden part sur cette piste-là. J'ai vu qu'il demandait à ce qu'il n'y ait plus de différence entre les hommes et les femmes dans les clubs sportifs, dans les compétitions sportives. Et Biden, depuis hier, a déjà annulé un décret sur la lutte contre les stéréotypes de sexe et de race permettant de donner un fondement à l'exclusion de la théorie critique de la race dans les formations et les marchés publics.
On va jusqu'au bout de cette pensée effectivement racialiste. La pensée racialiste, c'est une pensée raciste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va résumer, je suis entièrement d'accord avec Frédéric, elle va résumer l'individu à un dénominateur qui est celui de sa couleur en excluant tout le reste de la personnalité de l'individu, de ce qu'il a fait. À cet égard, par exemple, je suis extrêmement surpris de la façon dont aux États-Unis et en France a été décrite la vice-présidente Kamala Harris, qui a été réduite de façon quasiment systématique à sa couleur de peau, au fait qu'elle était une femme, en oubliant son parcours exceptionnel, notamment dans l'administration judiciaire américaine, aux lois qu'elle a réussi à faire voter, notamment en Californie. Et du coup, on en finit par limiter les gens à la simple expression de leur naissance, de leur couleur de peau ou de leur identité sexuelle. Je trouve que c'est en réalité un retour en arrière qui est extrêmement inquiétant. Et pour revenir sur la polémique sur Disney, ce qui est grave, c'est que, d'une certaine manière, les films vus avec les parents, je pense aux Aristochats, sont des moyens aussi de développer un esprit critique, sont aussi un moyen pour les parents d'expliquer à l'enfant, d'une certaine manière, quels sont effectivement les a priori qui sont véhiculés dans certains films, mais au moins c'est un moyen d'en parler. Et ici, de façon arbitraire, Disney, et je pense aussi à d'autres, à Netflix, qui fait à peu près la même chose, qui du coup coupe les individus d'une liberté, notamment de dialogue avec leurs enfants.
Oui. Laurence Taillade, ça vous parle évidemment.
Oui, moi ça me parle évidemment parce que j'ai vraiment le sentiment que cette autocensure, elle est la résultante effectivement de cette pensée unique qui est une pensée qui est racialiste, et le racialisme c'est du racisme, qui est racialiste, qui assigne les individus à une identité qui est effectivement, comme l'ont dit chacun des intervenants, une identité de naissance, mais pas forcément une identité de l'affirmation d'une personnalité, et ça c'est un vrai problème. Et donc finalement on est face à un barrage de la liberté d'expression et de la liberté de penser et de libre exercice de la raison. Et ce qui me pose un problème, c'est aussi effectivement par rapport à l'éducation des enfants. Peut-être que certains d'entre vous ont lu « La psychologie des contes de fées » de Bruno Bettelheim, qui est extrêmement intéressante parce qu'effectivement, c'est à travers le conte de fées que l'on permet aux enfants d'avoir un certain nombre de repères. Il va soit s'identifier, si on prend le chaperon rouge, au loup un jour et au chaperon rouge le lendemain. Mais ce qui est important, c'est que l'imagination de l'enfant puisse se calquer sur des personnages sur lesquels il va avoir envie de s'identifier pour pouvoir grandir. Or, on est en train de se rendre compte que même ça, ça devient compliqué puisque un certain nombre de dessins animés qui sont pourtant structurants, quand on parle de Peter Pan, Peter Pan, c'est un syndrome bien connu en psychologie qu'on utilise énormément. Si on enlève un dessin animé comme Peter Pan, bah, finalement, qu'est-ce qui nous reste pour pouvoir nous identifier
C'était aussi du divertissement, rappelons-le. Et puis, une auditrice me dit, nous, on a grandi avec ça et on sait faire la distinction. On n'est pas devenu anti-asiatique ou raciste parce qu'on a vu les Aristochats qui avaient les yeux, dont les Siamois avaient les yeux bridés ou les peaux rouges dans Peter Pan. Enfin, c'est invraisemblable.
Seulement on limite la liberté d'expression, ce qui est très grave, mais on préjuge de l'inintelligence des gens qui vont regarder ce type de film ou de spectacle. Donc, en effet, c'est quelque chose qui est tout à fait inacceptable. L'occurrence.
Ouais, c'est Lucia qui me dit, est-ce que vous pensez vraiment que quand on regarde un dessin animé tout petit, on se pose toutes ces questions? Oui, c'est exactement ce que je viens de dire. On a tous été élevés ou grandis avec des dessins animés et ça ne nous a pas forgé.
Sans compter que les gens qui forgent cette pensée sont eux-mêmes producteurs de tas de stéréotypes et de tas de préjugés, en
Parce
l'occurrence.
Parce que pour revenir à Kamala Harris, c'est aussi ce qui a été mis en avant.
Oui, c'est ce qui a été mis en avant. Et mis en avant, je crois, aussi par l'administration de Joe Biden.
Oui.
Donc, en fait...
C'était un élément de communication,
un ministre trans,
exactement.
Etc.
Et du coup, on essaye de recréer une nouvelle représentation de symbole qui est, je crois, pire qu'une réalité diverse dans ses natures.
Oui, Frédéric, Dabi, vous voyez, ça nous a bien fait débattre, mais ça méritait effectivement qu'on s'inquiète. Et certains, j'arrive plus à retrouver le tweet d'un écrivain qui disait on s'attaque aux pingouins, faisant référence à Xavier Gorce, et demain, ce sera encore autre chose. On a appris ce matin, d'ailleurs, que Plantu allait prendre sa retraite le 31 mars. Il a dit que ça n'avait rien à voir avec l'affaire Xavier Gorce. Mais peut-être que ça a à voir, parce que le monde, effectivement, aussi est en train de prendre cette tournure, cette posture. Quand on voit que le New York Times écrit, quand il parle des Noirs, Noirs avec un N majuscule et Blancs avec un B minuscule, là aussi, ça fait partie de ce mouvement.
C'est de la bêtise à l'état pur, c'est cet âge racialiste dont on parlait.
C'est cet âge racialiste. Alors Mathieu, on va commencer avec le sujet vaccin.
Alors moi, j'ai un coup de cœur sur les vaccins, j'ai un coup de cœur pour les Français. Les Français qui étaient décrits comme ce peuple qui était le plus rétif à l'idée de la vaccination, ils sont en train de changer, on le voit, Frédéric le voit dans ses baromètres j'imagine, on le voit aussi chez BVA avec une augmentation de plus 11 points de Français qui veulent se faire vacciner. Ouais. C'est une évolution notable et mon coup de cœur, il va en particulier pour le gouvernement.
Vous allez faire exploser
qui sans le faire exprès, a probablement adopté la meilleure stratégie qui soit, c'est celle de l'aversion à la perte. Parce que la question n'est plus de savoir si les Français veulent se faire vacciner, mais si les Français peuvent se faire vacciner. Ouais. Et du coup, en créant de la rareté, ils ont créé de la désirabilité.
Je pense qu'ils ne l'ont pas fait exprès.
Ça c'est certain. Mais c'est un des plus gros leviers comportemental. Plus sérieusement, mon coup de cœur, il va aussi à tous ces Français qui ont hésité et qui sont en train de se faire vacciner. Je pense notamment aux soignants. Qui se font vacciner, notamment pour continuer à exercer leur profession et pour continuer à aider. Je pense notamment aux grands-parents qui ont pour certains hésité, qui hésitent, mais qui finissent par se faire vacciner en pensant à leurs enfants pour que le pays puisse retrouver une vie normale et en pensant à leurs petits-enfants qui veulent continuer à étreindre dans leurs bras. Et donc la conclusion, moi je crois vraiment, c'est que les Français peuvent avoir non pas une aversion au changement, mais un enjeu de projection. Et à partir du moment où la bascule se fait, elle s'opère, je crois, de manière assez massive avec un levier qui est clé. C'est le levier de la proximité. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, et ça on le voit, les Français sont en train d'adhérer à la vaccination? c'est plus les décisions d'en haut. On sait que les clercs, les élites sont mortes dans la capacité à influencer. Mais en revanche, c'est toutes les logiques d'influence de proximité, le médecin de famille, les proches, les enfants, les amis, qui vont avoir un effet massif dans l'influence sur cette question de la vaccination.
Alors, je voudrais savoir, moi, pourquoi Pierre et un autre auditeur, Yves, nous disent propagande vaccinale à fond les manettes. Bien sûr, c'est de la connerie de dire que les Français veulent se faire vacciner. Frédéric, peut-être un mot sur les sondages.
Oui. C'est très intéressant ce qu'a dit Mathieu Chêne. On a dans notre balise IFOP fiduciale pour CNews et Sud Radio publié ce matin 58% des Français qui veulent se faire vacciner. Ils étaient, je rappelle, 39% au début du mois de décembre. Mais je pense vraiment à tout ce que dit Mathieu et me semble parfaitement juste qu'il y a eu un contresens sur l'interprétation des sondages du mois de décembre. On en avait parlé ensemble, Valérie. On pensait que que toutes les personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner, 61% au mois de décembre, étaient des anti-vaccins.
Oui,
ils étaient moins en défiance que sur une posture attentiste. D'ailleurs, une enquête Ipsos internationale avait montré que parmi ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner, il n'y avait que 10 à 15% d'anti-vaccins.
Et
dans notre enquête, dans notre enquête de ce jour, nous avons 18% des Français qui ne veulent certainement pas se faire vacciner. Ça fait du monde, dans une logique d'extrapolation, ça fait 8 millions de personnes, mais en tout cas, on est passé d'un attentisme à une adhésion, tout simplement parce qu'il y a une équation qui fait son chemin dans l'opinion publique. Le vaccin est un sésame, le vaccin est le meilleur moyen pour sortir de la crise et retrouver le cours de nos vies normales. Sans doute, certains de vos auditeurs ne vont pas aimer ce que je viens de dire.
Oui, non, on nous dit que c'est effectivement que c'est du lavage de cerveau. C'est pas politique, le vaccin, parce que je me fais parfois traiter de suppos d'Emmanuel Macron, mais c'est une question de santé, c'est pas une question politique.
Exactement.
Il faut en sortir de ce raisonnement. Je veux dire, le vaccin est là pour nous protéger. Ouais. Après, effectivement.
Et puis après, Pasteur régénère les débats macronistes.
Oui. Mais après, c'est un rapport coût-bénéfice. Et quand on a les verbatim, ce sont aussi des gens qui nous disent que pour certains, qu'ils n'ont pas encore 20 ans, 30 ans à vivre, des personnes âgées qui veulent profiter de leurs dernières années. Et pour le vaccin, c'est un sésame qui va leur permettre de retrouver leurs petits-enfants, de pouvoir les étreindre dans leurs bras. Et pour eux, ça compte dans le rapport coût-bénéfice beaucoup plus que les considérations politiques.
Si, il y a une auditrice qui nous dit c'est n'importe quoi, ces sondages. Dans les 61%, il n'y avait pas que des anti-vaccins. C'est ce qu'a dit Frédéric. Il y avait une proportion de 18%, une proportion d'anti-vaccins contre les vaccins à tout prix. Mais voilà. Oui, le vaccin, c'est la liberté de chacun de se faire vacciner ou pas, bien sûr. Sauf que vous protégez aussi les vôtres, votre entourage, et que c'est comme ça qu'on retrouvera une vie normale. On va marquer une pause et on se retrouve dans un petit instant Oui, Laurence. Mais Laurence, je vous donne la parole en revenant. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous, avec Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, Laurence Taillade, présidente du Parti Républicain Solidariste, Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique, et Mathieu Chaigne, directeur associé de BVA Nudge Unit et cofondateur de Délit d'Opinion. Je vous propose de réécouter Emmanuel Macron. C'était hier devant des étudiants en déplacement à Saclay, dans l'Essonne.
Ce qui va avec la défiance française, c'est aussi cette espèce de traque incessante de l'erreur. C'est-à-dire, nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. C'est pas comme ça qu'on fait face aux crises ou qu'on avance.
Voilà, donc 66 millions de procureurs. Évidemment, il a lancé un os à ronger à tous les débatteurs de plateau. Mais au-delà de ça, beaucoup de gens se sont sentis insultés. Jackie, sur Twitter, nous dit « Macron ne se rend pas toujours compte qu'il s'adresse aux Français et non uniquement aux 20 personnes qui se trouvent devant lui. Il ne joue pas le rôle de président, mais celui d'un petit chef d'une entreprise quelconque. » Alors Arnaud Benedetti, en termes de communication politique, c'est une erreur
Bon, d'abord, il faut qu'il arrête de généraliser. C'est un premier point. Je pense que c'est absolument essentiel de le dire. Ensuite, bien évidemment, c'est une erreur, mais tout le monde, je pense, est d'accord là-dessus. C'est que c'est d'autant plus une erreur que finalement, il a une opinion publique qui est plutôt, dans le moment que nous traversons, relativement calme et assez bienveillante, compte tenu quand même du lot de contraintes qu'on lui fait subir. Donc, venir en rajouter d'une certaine manière une couche sur le thème du Gaulois réfractaire, cette fois-ci avec le vocable de procureur, ça me semble, si vous voulez, une communication à contre-temps et contre-productive, qui surtout traduit que quand même, ce président, sur le fond, enfin, c'est un avis très personnel, bien évidemment, que je donne, a quand même une relation tendue avec le corps social, et qu'il donne le sentiment de ne pas avoir appris de ses erreurs passées. Souvenez-vous quand même que, durant toute la première partie de son mandat, il y a eu un certain nombre de séquences qui ont été elles-mêmes productrices de grand nombre de polémiques et de controverses, et que, bon, la crise des Gilets jaunes avait été aussi l'expression d'un rejet de cette communication-là. Pas seulement, il y avait des racines beaucoup plus profondes, mais aussi, il y avait ça derrière. Et je ne comprends pas que, dans la période dans laquelle que nous sommes en train de traverser, au moment où l'opinion publique fait preuve plutôt d'une forme de résilience, qu'il en vienne, disons, à tenir des propos de ce genre. Mais moi, je pense profondément, moi j'ai une explication. Je pense que c'est sa nature profonde, et que là, il parle spontanément, sans filtre, je veux dire, et il dit en tout cas son ressenti. Mais un président de la République, ça doit contenir son ressenti.
Mais 66 millions de Français, effectivement, de généraliser et de crisper finalement des gens qui le soutiennent.
En démocratie, il y a de la critique, hein. C'est basique.
Je reprends et je complète ce que dit Arnaud Bernadetti. C'est ce qui est hallucinant, c'est qu'il se dissocie de son corps, de son corps social.
De son peuple.
Un président, il doit faire corps avec 66 millions de Français. Et là, il stigmatise 66 millions de Français. Il ne va même pas chercher une partie du peuple qui va générer un clivage. Non, il va, de façon totalement homogène, critiquer l'ensemble de son peuple. Deuxième erreur, exactement comme le dit Arnaud, je trouve que ce qui est catastrophique pour lui, c'est qu'on a l'impression, un, qu'il refuse les critiques et de se remettre en cause. Et deuxième point qui est étonnant, c'est que il semble à chaque fois critiquer un peuple au lieu d'être le partisan de l'unité qu'il est censé être. Il a sur son compte Twitter, il y a marqué France Unie. Gaulois réfractaire, c'était une première erreur. Privilège de l'homme blanc, grossière erreur, c'est-à-dire un sentiment de fracturer la société française. Et là, une troisième fois, il fracture la société française. À la fin de son texte, quand il s'exprime, on a l'impression d'ailleurs qu'il est en roue libre, hein, parce qu'il dit, je dis son texte, mais au fait, il parle, il parle à cœur ouvert. Ce qui pose la question d'ailleurs de l'authenticité de ce qu'il est quand il parle lors de ses vœux, par exemple, et lorsqu'il parle ici sans texte, à quel moment Macron est authentique, ça c'est un vrai problème.
Là, il est spontané.
Donc, est-ce qu'il aime les Français? Est-ce que c'est une critique? Est-ce qu'il est capable de se remettre en cause? Et au-delà de ça, quand il pose la question et qu'il dit il faut faire confiance et rétablir la confiance. La confiance, elle passe par d'abord de la transparence, savoir ce qui a fonctionné, savoir ce qui n'a pas fonctionné.
Bien sûr.
Donc, on ne peut pas en vouloir aux Français de pointer du doigt ce qui n'a pas fonctionné, surtout quand on a 70 000 morts, c'est un peu un sujet épidermique. Deuxième élément qui est important aussi, la confiance, elle passe par la réalité des succès. Est-ce que le vaccin sera un succès ou pas, la campagne de vaccination? Et puis, troisième élément qui est essentiel, je crois, c'est que la confiance, elle ne fonctionne que lorsque vous donnez un rôle à chacun. Ce n'est pas les conventions avec 50 pelés. Donner un rôle à chacun, c'est permettre en réalité aux Français d'être partie prenante active de ce qui est en train de se produire, de cette crise majeure. Si vous n'êtes pas capable de le faire, les Français, ils adoptent une posture, c'est la posture de l'opposition.
Mais c'est assez infantile comme réaction, enfin enfantin. C'est en gros, personne ne m'aime, tout le monde me critique. Frédéric Dabi, sur ce que vous venez d'entendre, sur ces deux analyses qui sont très, très justes.
Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai tendance à dire, quand je vois nos enquêtes qualitatives, quand je vois nos baromètres de popularité sur la durée, que les petites phrases commentées par les médias, dans les réseaux sociaux, n'impacte pas la popularité présidentielle. Mais, parce qu'il y a un mais, quand s'agissant d'Emmanuel Macron, il y en a tellement eu, et ça préexiste à son élection à la présidence de la République. Hein, souvenez-vous, sur Europe 1, pardon de citer un de vos confrères, en 2015, les ouvrières de Gade qui sont illettrées, va t'acheter un costume, etc., que ça fait un petit peu système, et ça, je dirais, jouait beaucoup dans un des déficits majeurs d'Emmanuel Macron dans l'opinion publique, à savoir le déficit de proximité. Et ce déficit, c'est deux choses. D'abord, un cocktail mépris-arrogance qui a été très fortement noté par les Français, même si même si ça s'est beaucoup atténué. Et puis, le sentiment de déconnexion. Dans notre baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio, vous voyez, Valérie, chaque mois, que l'item sur lequel Emmanuel Macron est le moins fort, c'est « est soucieux, connaît les préoccupations des Français ». Donc, c'est un vrai point faible. Il avait arrêté de faire ces petites phrases, même si Mathieu Chen a bien rappelé, je l'avais oublié, l'affaire du privilège blanc, qui est aussi un vrai problème. Mais tout ça ne joue pas pour lui. Et ça s'inscrit dans une sorte de giscardisation, si je puis dire, de la présidence Macron, qui me paraît dangereux pour lui.
Oui. Laurence Taillade. Laurence. Ah, on n'entend pas Laurence, ou on l'a.
Écoutez, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a un président qui n'est pas. Enfin, pour moi, il n'est pas du tout.
Oui, on vous entend.
Pourtant, mon son est bien en route.
Non, ça y est, on vous entend.
Allô.
Non, on n'entend pas Laurence, donc on a
un petit... Ça y est,
vous m'entendez.
Donc, je disais, on a quand même... Bon, donc on a un président quand même qui n'est plus...
Allez-y, on vous entend.
Non, mais ça compte.
Oui, je vous entends.
Bah, allez-y. Je sais pas. Bon, alors on va essayer de... Il y a un décalage, donc on va essayer de...
Oui, d'accord, donc je disais, voilà, on a un président qui malheureusement n'est pas du tout...
Non, ça coupe. On a un problème de liaison, avec vous.
Après, petit bémol quand même qu'on peut, si on ne se place plus du côté du président de la République, mais qu'on voit l'homme, on peut se dire qu'il y a des moments où l'homme craque. Et probablement là, l'homme qui se lève à 5 heures le matin, qui se couche à 2 heures, qui
est président de la République,
qui est président de la République. Mais si on se met juste
pardon,
du côté
de l'homme
et sans justifier, je pense que ce qui a dû se produire ici, c'est que ulcéré par les critiques, et je porte pas de fond sur est-ce que il a eu de raison ou pas de parler de procureur, il a eu une réaction.
Le mot est très fort, de procureur quand même. Le choix de ce terme est quand même très violent, très très dur, je trouve.
Vous savez, je conçois ce que vous dites. Le problème, c'est que Camus disait un homme, ça s'empêche. J'allais dire un homme d'État, ça s'empêche encore plus en la matière. Oui. Alors c'est vrai que François Mitterrand, mais le général de Gaulle avait pu tenir des propos extrêmement durs, mais en général c'était en privé, c'était des propos qui étaient rapportés.
Quand il dit
que les Français sont des veaux, en effet, ce n'est pas particulièrement gratifiant pour son peuple, mais ce ne sont pas des propos, en tout cas d'estrade ou des propos officiels. Là, en l'occurrence, c'est qu'il est en situation de représentation, et en situation de représentation, un chef de l'État, il doit maîtriser tous les codes qui sont ceux d'une communication politique, qui soit une communication politique de rassemblement. Le chef de l'État en France, c'est l'héritier quand même d'une monarchie. Et le monarque, c'est quelqu'un qui doit rassembler. Et là, le problème avec Emmanuel Macron, et vous avez très justement dit, c'est que, en fait, il archipélise toujours plus la société française, qui est déjà très archipélisée par ses propos. Et c'est ce qu'il a voulu faire d'une certaine manière, avec sa référence au privilège blanc, pensant que, en récupérant d'une certaine manière ce leitmotiv qui est véhiculé par les racialistes, les décolonialistes, il allait s'en faire d'une certaine façon des amis, comme il peut essayer de se faire des amis parfois en ayant des références qui peuvent être chaudes au cœur des identitaires. Mais ce n'est pas comme ça qu'on gouverne, en l'occurrence. À un moment donné, un chef d'État, il doit transcender les différences. Et là, en l'occurrence, on a un président de la République qui donne l'impression toujours de diviser. Et surtout, l'image qu'il renvoie, et qui est, à mon avis, c'est le principal problème, c'est qu'il n'aime pas son peuple.
Ouais.
Donc, et ça, c'est quand même une vraie difficulté. On ne lui demande pas d'être le sociologue de la société française.
Et on a un auditeur qui, lui, il considère que chaque Français est un procureur prêt à le mettre sur l'échafaud politique. Il est en campagne, ne l'oublions pas, il tente encore une fois de se déresponsabiliser. C'est un peu le sentiment qu'on peut avoir quand on entend procureur, c'est-à-dire que les Français seraient des Gaulois à l'heure sans raison. Et dit de se déresponsabiliser, de se déculpabiliser de toutes ces décisions. J'espère que tout le monde mange du poisson pour garder en mémoire ces bientôt 4 ans de piteuse présidence.
Alors, mot de déresponsabilisation, il a aussi été noté au moment de la sortie dans le JDD.
Oui.
Quand il y a eu la colère du JDD,
absolument,
où il y avait
absolument.
La colère d'Emmanuel Macron. Et tout à coup,
c'est pas de ma faute.
Mais en fait, qui est au centre de tout ça? Qui participe au Conseil de défense, si ce n'est le président Emmanuel Macron?
C'est très juste.
Tout revient vers lui. Donc s'il y a une chose qu'on ne peut pas dire, c'est tout à coup sembler découvrir...
D'un président qui se présentait comme jupitérien, c'est-à-dire avec une présidence verticale, un management de tous les instants.
Justement, si je puis me permettre dernier mot, il fait une erreur quand il pense que c'est grave que les Français le critiquent. Les Français admettent les erreurs des hommes politiques. Ce qu'ils ne supportent pas, ce sont deux choses. le mensonge ou la tromperie, et là je ne reviens pas sur l'affaire des masques, et surtout l'impuissance et la déresponsabilisation dont parle Mathieu, c'est cette impuissance, l'impuissance du politique, c'est dévastateur pour les Français.
Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant, j'espère qu'on aura Laurence Taillade, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Alors Laurence Taillade, on a eu des petits problèmes de son avec vous, on ne vous a pas entendu sur ces 66 millions de procureurs.
Oui, mais bon, c'est vrai que les débatteurs ont été très brillants sur la question. C'est juste,
on ne vous a pas consolé.
Voilà, vous ne m'avez pas du tout contrarié, bien au contraire, je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit. Il y a un problème d'incarnation de ce président qui finalement préside pour lui-même et non pas pour la nation, n'est pas du tout dans le rassemblement. Et je pense que le problème, c'est que c'est quand même un multirécidiviste du dérapage. Et ça, c'est inquiétant parce qu'il connaît maintenant les conséquences de ces multiples dérapages. Il sait qu'il va créer des tensions. Et moi, ce qui m'attriste le plus, c'est que finalement, il y a un déni de démocratie dans ses propos, puisque la critique ne lui convient pas. Voilà. Ouais.
Alors, on a un auditeur qui voulait réagir, Vincent de Paris. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci de me donner la parole et merci à Sud Radio que je suis depuis très 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 longtemps, puisque Sud Radio, pour moi, ça m'invoque des souvenirs d'enfance.
Ah bon,
à l'époque où vous étiez encore en Andorre, pour une partie.
Bref.
Voilà. Donc, en fait, je souhaitais réagir par rapport à cette petite phrase, également, comme vous l'avez tous bien illustré, certainement beaucoup mieux que moi. Ça donne bien un profil de personnage qui est pour moi un peu schizophrène. C'est-à-dire, le matin, je me réveille, je suis président. Dans la journée, on m'énerve la réalité de ma personne revient au galop.
Allô ? Oui, oui, on vous entend, oui, oui.
Ah oui, pardon.
Oui, oui. Allez-y, allez-y.
Et donc, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle à la lumière de ce que vous disiez, avec, toute proportion gardée, avec un Donald Trump qui était un petit peu dans ce type de fonctionnement. Ne pas oublier également, parce qu'il faut avoir un peu de pondération par rapport à ça, que dans les fins de quinquennat, on a connu avec Sarkozy, on l'a connu
avec
également
Hollande,
Hollande, on a eu droit aussi à ce genre de choses. Je pense qu'il y a une difficulté par rapport à la frustration, je dirais, de l'exercice du pouvoir. Qui à un certain moment donné dit je ne peux rien faire, donc c'est la faute de tous ceux qui m'ont
changeons le peuple, c'est ça en gros.
C'est ça, oui. Et donc la difficulté, je pense, pour les auditeurs et pour les personnes qui sont à l'écoute et qui ont à un moment donné voté ou pas, puisque il a été élu par 24% des suffrages exprimés et finalement il est le président de 66 millions de Français. C'est de dire ce monsieur qui sort de grandes écoles, qui a également un QI au-dessus de la moyenne et qui était prévu pour diriger des grandes entreprises. En fait, il a accepté un job dans lequel il se dit je vais changer les gens de l'entreprise, je vais virer tout le monde et ça ira mieux.
Ouais,
donc c'est un peu ce genre de.
Ouais, c'est ce qui vous, c'est ce que ça. Vous avez été choqué par cette phrase?
Ah, moi, j'ai été totalement choqué parce que je travaille dans une industrie où on nous demande d'être très efficace, où actuellement y a beaucoup de gens qui sont en chômage partiel, et d'ailleurs ça nous choque en partie parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas assez de gens pour faire de la logistique, on a des problèmes pour acheminer et vacciner les gens, alors que dans l'industrie aéronautique, rien que pour citer cette industrie, on est des spécialistes de la logistique et de faire bon dans un temps minimal. Et on voit bien que ça patine, que ça repatine, et que en fait, on est dans un déni généralisé.
Ouais.
Et ça, c'est frustrant.
On entend.
C'est l'État qui paye tous ces gens.
On entend ce que vous dites, donc... Daniel. Je vous coupe parce qu'on a des appels. On a Daniel également. Merci de votre appel, Vincent. Daniel.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors, mon message est un petit peu le même que celui de l'auditeur précédent, de Vincent, sauf que je ne garde aucune proportion. Les proportions sont les mêmes. Je remarque simplement que Donald Trump a été caricaturé par rapport à cette tweet, ce qui serait très, très intéressant, c'est que vous analysiez les traductions qui ont été faites de l'américain au français, et avec toute la subtilité de notre traduction et un petit peu les gros sabots de la langue américaine, et les tweets n'ont pas l'intensité ou la gravité de ce qu'on a bien voulu leur donner. Et quant au QI, Vincent, vous vous avancez un petit peu. Je pense que Macron est un homme ordinaire. Bon, il est arrivé là, on sait dans quelles conditions. Donc j'aimerais bien que, alors, oui. peut-être que aux États-Unis, on fera les mêmes choses avec comment s'appelle-t-il,
Joe Biden,
Macron,
avec Donald Trump.
Macron, mais la différence, c'est que Monsieur Macron pense bien.
Ouais. Alors merci de votre appel. Alors effectivement, il y a un auditeur qui dit qu'il a été élu au suffrage universel, Emmanuel Macron. S'il n'a été élu qu'avec 24% des voix, c'est que les Français ne sont pas allés voter. Donc là, c'est la faute du peuple.
Il a été élu avec un peu plus de 24%, avec le premier tour. En effet, c'est son socle électoral qui est important, en effet, en l'occurrence. Enfin, important, non, qui n'est pas très important sur le, sur le plan d'histoire électorale. Il a fait quand même, plus de 60%, bon, face à Marine Le Pen.
Au premier tour, il a fait mieux que Jacques Chirac en 95.
Donc c'est pas un argument.
Laurent Taillard, ce mépris, je pense que ce mépris, il est dû aussi à la vision que Emmanuel Macron a des Français. Pour lui, il n'y a plus de citoyenneté, parce que la citoyenneté, c'est quand même aussi l'expression, parfois, de désaccord avec ceux qui sont censés avoir mandat pour nous diriger. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on a un président qui pense que les Français sont finalement des salariés, sont aussi des consommateurs, et on le voit dans les choix qui ont été pris cette année, dans la façon d'organiser les différents confinements. On est transformé effectivement en consommateur, en salarié, mais notre vie spirituelle, notre vie culturelle, elle a été totalement mise de côté. Donc je pense qu'on a aussi cette problématique avec ce président.
Ouais, on est aussi dans une période, il faut le dire, pour être tout à fait juste, très compliquée, et je ne sais pas si d'autres auraient fait mieux. Arnaud, vous voulez revenir ?
Non, je voudrais revenir sur la comparaison qu'ont fait deux de vos auditeurs avec Trump. C'est pas faux, d'une certaine manière. Il y a une forme de trumpisme, j'allais dire, latent chez Emmanuel Macron dans sa façon de communiquer. C'est-à-dire que, finalement, c'est quelqu'un qui est très éruptif dans sa communication aussi. Quand on regarde l'histoire de sa communication politique sur ces 4 années, on va trouver un nombre important de séquences de ce type qui apparaissent finalement assez peu contrôlés. Mais par contre, à la différence de Donald Trump, Donald Trump, il ne stigmatisait pas son peuple, en l'occurrence. Il stigmatisait les élites, il stigmatisait les journalistes, il stigmatisait ce qu'il appelait les oligarchies, l'establishment. Emmanuel Macron, il est dans une position qui est... Il fait du trumpisme dans la forme de la communication, mais ce qu'il fait, c'est finalement, il pointe du doigt un peuple ou une opinion publique qu'il voudrait bien éclairer, mais qu'il ne parvient pas finalement à éclairer. Donc c'est une certaine façon un constat d'échec aussi de sa part.
Et puis avec un point aussi qui est dramatique pour lui, c'est qu'entre le peuple et Emmanuel Macron, il n'y a plus personne. C'était d'ailleurs le gros problème des Gilets jaunes. Il concentre avec lui tous les pouvoirs et quand tout à coup il en veut à son peuple, il n'y a plus personne, il n'y a plus de corps intermédiaire. Les syndicats n'ont pas été du tout mis en valeur durant ce quinquennat. On arrive à un moment éruptif dans lequel il est tout à fait possible, pour faire entendre sa voix, de renverser le pouvoir. Oui. C'est exactement la stratégie des Gilets jaunes.
Oui, effectivement, on a l'impression qu'il n'a pas appris de cette crise d'ailleurs, sur la manière dont il s'exprimait. Romain nous redit, c'est la règle du jeu, aucun président n'est élu par plus de 20 à 25% des voix du corps électoral national.
C'est pas vrai.
Le général de Gaulle, quand même.
Général de Gaulle.
Qui fait 45% au premier tour.
Et Nicolas Sarkozy qui a fait plus de 30% au premier tour en 2007.
Ou François Mitterrand. Je pense que c'est pas uniquement le problème du président qui doit être posé, c'est le problème effectivement de cette représentation aussi à l'Assemblée nationale et de la forme de la proportionnelle telle qu'elle va être proposée sur la prochaine réforme constitutionnelle. Parce que le président théoriquement ne devrait pas être seul au pouvoir et aux manettes, mais on se rend bien compte que c'est cette majorité écrasante à l'Assemblée nationale qui lui donne tout pouvoir, parce qu'on pourrait avoir un contre-pouvoir avec nos assemblées.
Ouais. Frédéric, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences sur l'opinion après cette énième petite phrase ?
Moi, je pense qu'elles seront malgré tout marginales, parce que les Français évaluent l'action de leurs dirigeants justement sur leur action, sur leurs résultats. Ça peut, par contre, on le disait précédemment, réactiver la mauvaise petite musique qu'on a connue avant les Gilets jaunes, un petit peu pendant, sur un président déconnecté, un président distant vis-à-vis de son peuple. Mais en tout cas, ce qui frappe quand même, et ça revient je fais un parallèle avec ce qu'a dit Arnaud Benedetti tout à l'heure, c'est le problème également d'Emmanuel Macron, c'est l'absence de, c'est un problème, mais c'est pour l'instant un gain, c'est l'absence de réceptacle au mécontentement. Il est effectivement seul face à son peuple, puisque quand on voit notre baromètre mensuel fiduciaire Paris Match Sud Radio, on n'a aucune force politique qui apparaît comme une alternative, qui apparaît comme une possibilité d'être le réceptacle à l'égard du mécontentement vis-à-vis du président, qui a un socle de popularité solide, mais qui est, il faut le dire, depuis 2018, structurellement impopulaire.
Allez,
ça, oui, ça on en parlait avec Arnaud. La conviction est que la nature a horreur du vide et que si Emmanuel Macron ne fait pas l'affaire, le peuple se trouvera quelqu'un d'autre.
Un réceptacle, ça se trouve effectivement.
Ben, merci à tous les quatre. Merci d'avoir été là. On n'a pas abordé évidemment tous les thèmes qu'on voulait évoquer, mais c'est vrai que cette petite phrase vous a fait énormément réagir. Vous étiez très nombreux ce matin. Très bon week-end à tous. On se retrouve lundi avec d'autres informations, évidemment. Merci à vous. Merci d'être fidèles à Sud Radio. Merci.